Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. HP et Ring, ce sont deux entreprises très différentes, évidemment, qui ne travaillent pas du tout sur le même marché, mais toutes les deux cherchent quand même à entuber leurs utilisateurs. On va y revenir dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Félix va revenir sur un accessoire un peu oublié, mais qui est resté longtemps collé au basque des utilisateurs les plus sportifs, et je parle littéralement, puisqu'il s'agit du kit Nike plus iPod. Nous sommes le mardi 14 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Qui n'a pas une ou deux histoires d'horreur à raconter à propos de son imprimante? Je vous le dis, l'ère du zéro papier n'arrivera jamais assez vite pour qu'on puisse enfin se débarrasser complètement de ces fichues imprimantes et surtout de leurs constructeurs. Oui, tous les Canon, les HP, les Lexmark et tous les autres, ils nous en font baver des vertes et des pas mûres en nous empêchant d'utiliser des cartouches d'encre autres que les leurs. Et pour cause, c'est sur les cartouches qu'ils font leur beurre en vendant l'encre au prix de l'essence. HP justement a de nouveau fait parler et enragé pas mal d'utilisateurs, avec une mise à jour de ces imprimantes qui empêche le logiciel de reconnaître les cartouches tierces. Du coup, certains se sont retrouvés avec des stocks de cartouches neuves, bonnes à jeter à la poubelle. HP se sert de puces de sécurité intégrées dans ses propres cartouches. Si le constructeur a laissé un peu de mou à ses clients, c'est maintenant terminé. Et maintenant, beaucoup d'entre eux cherchent à restaurer l'ancienne version du logiciel des imprimantes. Mais a priori, la manœuvre est compliquée. On ne sait pas trop jusqu'où cette histoire va aller, mais il ne serait pas étonnant de voir des actions en justice. HP a déjà perdu des recours collectifs ces dernières années à ce sujet. En exploitant à fond le système des abonnements, certaines entreprises réinventent le principe du dealer de drogue. Le constructeur Ring, qui fabrique des sonnettes et des caméras connectées, a décidé d'exiger un abonnement à ses utilisateurs aux États-Unis et au Canada pour des fonctions basiques. Il faut maintenant payer 4$ par mois pour pouvoir activer et désactiver ses appareils avec son smartphone. Ring appartient à Amazon, qui a multiplié ces dernières années les promotions et les prix bas sur le catalogue du fabricant. Résultat, ce sont désormais des millions de clients qui sont prisonniers de l'écosystème et qui ne pourront pas faire autrement que de s'abonner pour pouvoir utiliser normalement leur caméra connectée. Et ça n'est pas terminé. Amazon prévoit aussi de faire payer des fonctions qui étaient gratuites jusqu'à présent, comme les notifications en temps réel ou encore un historique de l'alarme. Mais petite consolation, les clients existants n'auront pas à payer pour tout ça, uniquement les nouveaux, qui ne risquent pas d'être très nombreux s'ils se rencardent sur les restrictions sans abonnement. Coup de mou sur les ventes de bracelets et de montres connectées. Les constructeurs n'ont pas fait le plein des ventes l'an dernier. Les clients ne se sont pas précipités ni sur les nouveautés ni sur les promos. Canalys a fait le bilan et le marché a plongé de 5% en 2022. Tout le monde s'est noyé, notamment Xiaomi et Huawei. Seul Apple a un peu surnagé avec des livraisons en hausse de 5% par rapport à 2021. Et ça n'est pas tellement plus brillant du côté du quatrième trimestre, qui est pourtant le plus important pour les constructeurs. C'est même pire avec une chute des livraisons de 18%, et cette fois Apple n'a pas sauvé les meubles avec une baisse notable de 17% pour l'Apple Watch. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les consommateurs ont eu moins d'argent à dépenser à cause de l'inflation évidemment, mais il faut bien dire aussi que les nouveautés n'étaient pas extraordinaires, à l'exception notable de l'Apple Watch Ultra. La série 8, l'Apple Watch SE et même la Galaxy Watch 5 de Samsung n'avait pas grand chose de très emballant à montrer, si j'ose dire. Le chiffre du jour, c'est 80%. Oui, 80% d'entre vous estimez que les prix des iPad Pro sont déjà hors d'atteinte dans notre dernier sondage. La rumeur voudrait en effet qu'Apple augmente franchement les prix de ses futures tablettes à l'occasion du passage aux écrans OLED. Ça nous ferait des tarifs qui commenceraient aux alentours de 2000€ pour un iPad Pro de 11 pouces et quasiment 2400€ pour le modèle de 13 pouces. Et on ne parle que des versions de base. Évidemment, de tels tarifs paraissent insensés, même si les iPad Pro sont de super tablettes. En tout cas au niveau matériel, parce que pour le logiciel, on a quand même quelques réserves. Vous n'êtes que 8% à dire que vous pourriez acheter même à ces tarifs s'il y a une valeur ajoutée. L'OLED ne suffira sans doute pas, il faudra qu'Apple propose autre chose pour passer à la caisse. Le sondage est toujours en ligne, alors n'hésitez pas à aller voter et à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'iPod a rapidement fait partie de l'équipement indispensable des coureurs. Il faut dire que le baladeur avait pas mal d'atouts pour lui, en particulier les modèles avec mémoire flash qui sont beaucoup moins sensibles au mouvement. Apple a évidemment remarqué qu'il y avait là un marché à prendre, et histoire de mettre les sportifs dans sa poche, quoi de mieux que de travailler avec Nike ? Avec Félix, on va revenir aujourd'hui sur un accessoire un peu oublié d'Apple, le kit Nike plus iPod, qui a permis à pas mal de gens de se lancer dans les délices du suivi sportif. Salut Félix !
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Alors d'abord, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'était que ce kit Nike plus iPod ?
Eh oui, alors en fait ce kit est sorti en 2006, d'abord aux États-Unis, puis quelques mois plus tard en France. Il se composait d'un émetteur à mettre dans la chaussure qui envoyait les données sur un récepteur. C'était un petit dongle à brancher sur le port connecteur de l'iPod.
L'émetteur en question avait la forme d'un petit galet, mais est-ce qu'il fallait le mettre dans des chaussures spéciales ?
En fait, Nike a vendu des baskets compatibles, où tu pouvais glisser le module bien à plat, mais on pouvait aussi le placer au niveau des lacets. L'important, c'était de faire en sorte que l'émetteur soit lui le plus horizontal possible. C'est celui-ci qui est chargé de calculer le nombre de pas avec un système de membrane et un algorithme qui permet d'obtenir des informations fiables. Il était quand même recommandé de procéder à des étalonnages régulièrement, histoire d'avoir des mesures qui tiennent la route.
Et donc, après avoir jumelé l'émetteur et le dongle, on pouvait se lancer dans une course avec l'iPod dans son brassard. Apple proposait même de définir une power song, un morceau qui permet de se dépasser sur la piste. Il suffisait de la lancer en maintenant le bouton central de la molette.
Et c'est une fonction qu'on n'a plus jamais revue depuis, c'est bien dommage. Il faut préciser aussi qu'on pouvait choisir sur l'iPod le type d'entraînement qu'on voulait faire, par exemple une course standard, courir un certain temps, griller un certain nombre de calories, etc. Pendant la course, il était possible de cliquer sur le bouton central de la molette pour avoir des informations comme le temps écoulé ou la distance parcourue qui était dictée par une voix de synthèse. Ouais. Et à la fin de la course, l'iPod affichait un résumé de l'entraînement.
Et ça ne s'arrêtait pas là. Après une synchro iTunes, on pouvait se rendre sur un site web dédié pour pouvoir consulter toutes les informations des entraînements.
Ouais, c'était plutôt bien fichu, avec une interface très claire et très colorée. Et le site avait une partie communauté où on pouvait défier jusqu'à 50 personnes dans le monde dans des compétitions virtuelles. Par exemple, celui qui court le plus grand nombre de kilomètres en un mois. Mmh. Il y avait aussi des classements en tout genre. Bref, c'était en quelque sorte l'ancêtre de l'application Form, mais sur Internet. C'est vrai que ça manque aujourd'hui chez Apple, et vu que la consultation du suivi sportif se limite toujours à l'iPhone.
Le kit Nike plus iPod a été abandonné en 2014 au lancement de l'iPhone 6 qui ne prenait plus en charge le petit galet de Nike. Il restait possible de s'en servir avec les iPhones précédents, mais iOS 9 et surtout l'Apple Watch qui est sorti en 2015 a définitivement enterré cette solution de suivi sportif.
D'ailleurs, Apple et Nike ont continué de travailler ensemble avec la collection d'Apple Watch Nike, mais vu que la montre contient tous les capteurs nécessaires pour mesurer les entraînements, le kit Nike plus iPod devient complètement sans intérêt.
Eh bien merci pour ce rappel d'un accessoire qui a accompagné pas mal de sportifs du temps de l'iPod. Salut Félix !
Ciao !
Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.